Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute l'équipe que vous connaissez bien maintenant, Perrine Suquet, Margot Agnès, et aujourd'hui c'est Philippe Duval qui est aux manettes techniques de notre émission. À la une, ce qu'on appelait tout à l'heure, avec Christelle Revière et Vincent Parisot, le business des otages. En fait, je disais, le titre n'est pas de moi, je l'ai volé carrément, mais enfin avec son accord, à mon invité Dorothée Moisan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, Dorothée Moisan, et vous avez publié en octobre dernier, donc c'est encore tout récent, un livre intitulé « Rançon », et le sous-titre dit bien « Enquête sur le business des otages ». C'est un livre qui est paru chez Fayard, et vous avez eu raison, bien sûr, de tenter de répondre à la question qu'on se pose tous, parce que à chaque fois qu'il y a une prise d'otage et qu'il y a une libération d'otage, que ce soit d'ailleurs du terrorisme ou du grand banditisme, les autorités, que ce soit la police, le chef de l'État, Premier ministre et tout, ministre de l'Intérieur, on n'a pas payé, la France ne paye jamais. Vous avez voulu en avoir le cœur net.
Voilà, j'ai voulu en avoir le cœur net. Il n'y a pas seulement la France, puisque la problématique des otages a cette particularité qu'elle est très nationale. Mmh. En France, on ne parle jamais d'otages espagnols ou néerlandais, alors qu'on a parlé récemment beaucoup des otages d'Arlit, enfin, il y a 6 mois.
Au Niger, oui.
Au Niger, les otages d'ACMI, donc. Ouais. ACMI a toujours un otage néerlandais, un sud-africain, un suédois, ouais, qui sont depuis aussi 2 ou 3 ans. Ça fait aussi un temps très long, mais on n'en parle pas. Donc c'est vrai que je voulais un petit peu savoir ce qui se cachait derrière toutes ces histoires et ces déclarations. Et puis si on parle aujourd'hui beaucoup des otages victimes des terroristes, ils ne représentent, d'après les spécialistes, peut-être un petit pourcent de tous les otages enlevés dans le monde chaque année, qui serait entre 30 000 et 300 000 chaque année.
Entre 30 000 et 300 000, c'est énorme. Hein.
C'est
Mais
énorme.
Vous dites que ce chiffre, on peut le comprendre, vous le dites au début de votre livre, parce que peut-être que beaucoup d'enlèvements ne sont pas signalés.
Exactement, c'est la première chose que les spécialistes de ces questions vous disent, les consultants qui interviennent, les assureurs, ouais. On n'a pas envie de déclarer qu'on a été kidnappé. Quand on vous enlève votre petit garçon et qu'on vous dit, si jamais tu préviens la police, je tue ton petit garçon, là on va avoir tendance à rester plutôt en retrait. Donc beaucoup ne vont pas déclarer ces enlèvements et vont rester donc secrets.
Oui.
Et là aussi, tout simplement, même dans les enlèvements des terroristes, on a plusieurs otages qui sont sortis. On se souvient, il y a un an, il y avait notamment un otage d'Afghanistan, Charles Ballard, qu'on a découvert quand il a été libéré. Pendant 3 mois,
personne
tout de même, il avait été otage.
Ouais.
Personne en France n'avait rien dit. Alors ce n'est pas qu'il n'existait pas, mais c'est bien que l'État, à ce moment-là, où l'entreprise avait décidé de le garder secret parce que c'était plus efficace.
Alors c'est ça, mais ça c'est une vraie question, on pourra en reparler à l'occasion de telle ou telle affaire tout à l'heure, parce que vous dites avec à juste titre bien sûr quel responsable, quel homme politique, quel homme d'État ou femme d'État acceptera simplement l'idée de sacrifier un otage. C'est pas envisageable. Les preneurs d'otages le savent bien. Alors maintenant, après, on accommode la sauce un peu en disant, non. Alors c'est souvent du mensonge, j'allais dire à la jésuite, pardon pour les jésuites qui nous écoutent, mais c'est on n'a pas payé. Mais il faudrait comprendre peut-être entre les lignes, c'est l'employeur, c'est la famille, c'est un autre État qui a été l'intermédiaire.
Alors effectivement, quand on dit on n'a pas payé, ça ne veut pas dire que, enfin, moi je n'ai pas payé, mais peut-être que mon voisin, lui, a payé. Alors quand vous disiez que personne, aucun État n'a le courage de sacrifier ses otages, pas tout à fait, parce qu'on peut penser aux Britanniques qui sont parfois extrêmement durs dans leur doctrine de ne pas payer. L'État britannique.
Oui.
Je ne parle pas des sociétés britanniques ou des assureurs dont on parlera peut-être, qui peuvent payer.
Oui, parce que ça s'assure le kidnapping.
Exactement. Mais il se trouve que les Britanniques, je pense notamment à Edwin Dyer, qui est un Britannique qui avait été enlevé au Sahel.
Oui.
Le gouvernement britannique a refusé de payer. On lui a demandé à ce moment-là, je ne sais plus quelle était la somme, ça se comptait en millions de livres. Ensuite, on a demandé la libération d'Abu Qatada, qui était un terroriste emprisonné à Londres.
Oui.
Londres a refusé.
Contrepartie, oui.
Et il a été décapité à ce moment-là. Oui. Et Londres a même refusé de racheter la dépouille.
Et comment le gouvernement anglais assume ça par rapport à son opinion?
On a beaucoup moins d'otages britanniques aujourd'hui que d'otages français, par exemple, parce que les ravisseurs ont compris qu'ils avaient moins d'intérêt financier à enlever un Britannique qu'un Français, par exemple, et que, tout simplement, payer pour un otage aujourd'hui, ça veut dire 10 otages demain. Donc le calcul est simple. S'il est évident qu'un père ou un frère paiera pour quelqu'un qui est otage, l'État, lui, a un calcul un petit peu différent à faire. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait, par contre, sur le mensonge ou le discours officiel d'un État qui, lui, aurait payé, il est évident qu'il, alors certaines fois, il aura payé, il aura raison de dire qu'il n'a pas payé
pour ne pas
encourager un ravisseur à prendre le premier ressortissant venu. Et quand il ne paye pas, peut-être qu'une entreprise, notamment, je pense aux salariés d'Areva et Vinci qui avaient été libérés en octobre dernier, les entreprises ont bien sûr payé.
Et vous, vous dites aussi que vous n'avez pas rencontré d'ex-otages. Vous avez considéré que, en fait, les ex-otages ne sont pas ceux qui ont les meilleures informations sur ce qui s'est passé.
Exactement, ils ne sont pas les mieux placés, en tout cas quand on veut comprendre les coulisses des otages, enfin de ce business. Alors bien sûr, j'en ai rencontré quelques-uns, c'est évident, mais j'ai plutôt rencontré des négociateurs qui, dans l'ombre, vont négocier la libération d'un otage. Le but pour eux n'est pas de ne pas payer, mais de payer le moins possible et de ressortir l'otage sain et sauf. Donc des négociateurs, des assureurs, puisque dans les années 70, en Grande-Bretagne, le Lloyd's, qui est ce regroupement d'assureurs basé à Londres, s'est dit qu'il était grand temps de créer une assurance, puisque à Londres, vous savez, on crée un peu tout type d'assurance, on peut assurer un petit peu tout type de choses. Et en voyant tous ces entrepreneurs, qui allaient notamment en Amérique latine pour se développer à l'international à l'époque, avec ce risque de kidnapping important, il s'est dit qu'il y avait quelque chose à créer. Et donc, on a créé des assurances qui assuraient la rançon. Mais quand on dit la rançon, on n'assure pas seulement la rançon.
C'est des millions de dollars.
C'est des millions de dollars de rançon, bien sûr. Et pas qu'aujourd'hui, parce qu'on se souvient, on ne se souvient plus aujourd'hui, mais dans les années 60, 70, on avait des montants encore plus importants que ce qu'on demande aujourd'hui. Je pense notamment à une affaire en Argentine où on avait demandé pour des jumeaux qui tenaient une entreprise là-bas, on leur avait demandé 5 millions de dollars à l'époque et on avait payé très vite en se disant il faut payer parce que sinon on va pas les libérer. Mais si on paye trop vite et trop, c'est un encouragement à continuer à garder l'otage et à redemander
et à
un deuxième
monter,
tour.
Bien sûr,
exactement.
Bien sûr.
Donc le 5 millions s'est transformé au final à l'époque en 60 millions de dollars, équivalent aujourd'hui 300 millions de dollars. C'est la plus grosse rançon jamais versée.
Alors il y a une autre réalité qui apparaît dans votre enquête, et il faut dire les choses comme elles sont. Vous dites la vie humaine des otages n'a pas de valeur. Mais les otages ont un prix. Alors, et c'est ça justement le nœud du problème. On va faire une première pause. On va se retrouver dans un petit instant et on va passer en revue ensemble un certain nombre d'affaires d'enlèvement, soit politiques, terroristes ou autres, ou des pirates, soit simplement des kidnappings, parfois de pieds nickelés du kidnapping, mais aussi parfois de bandes vraiment du commanditisme extrêmement organisées. Et avec vous, puisque vous racontez ces histoires dans votre livre, on essaiera de voir qui a payé et surtout combien ça a coûté. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
La bourse des otages, elle existe. C'est une des informations que Dorothée Moisan, mon invitée, a ramené de cette enquête sur les coulisses des prises d'otages et des tractations qui aboutissent aux libérations. On va écouter d'ailleurs, à propos de certaines affaires dont on va vous parler, comme d'habitude, des documents sonores tirés des archives de la rédaction d'RTL. Mais une fois n'est pas coutume, on va commencer par un document qui est un document chanté. Écoutez. Alors, cette voix vous dit forcément quelque chose. C'est celle de Kimera. Kimera, c'est la contraction du prénom coréen Kim et du mot Opéra. En 1987, cette chiméra est célèbre dans toute l'Europe avec ses interprétations d'opéra rock, des disques vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Kiméra est riche, son mari ne l'est pas moins, Raymond Nakachian, un homme d'affaires libanais. Avec lui, ils font régulièrement la une de tous les journaux people de leur époque. Leur train de vie est fastueux, luxueux. Nakachian a offert à sa femme une villa en marbre blanc située à quelques kilomètres de Marbella, sur la Costa del Sol, en Espagne. Une villa d'une trentaine de pièces qui porte le nom de leur fille, Mélodie. Cette villa a été construite sur un parc de 5 hectares avec héliport privé, lac artificiel, piscine olympique. Et Kiméra et son mari en ont fait un must pour la jet set internationale qui participe à toutes leurs fêtes, à ces fêtes somptueuses, mais pour qui, invités pour qui ils organisent également parfois des croisières à bord de leur yacht amarré à Puerto Banos, le port des milliardaires. Le 9 novembre 1987, deux hommes armés prennent en embuscade la voiture qui conduit la petite Mélodie à l'école. La fillette est arrachée du véhicule et elle est emmenée vers une destination inconnue. La police d'Estepona, le village de la famille Nakachian, est prévenue. Tout de suite, bien sûr. Et trois jours plus tard, Raymond Nakachian va recevoir un appel téléphonique. Au bout du fil, un certain Oscar exige 13 millions de dollars en billets de sang en échange de sa fillette. Et 12 jours plus tard, la petite fille est retrouvée, libérée par la police espagnole. Plusieurs ravisseurs seront arrêtés. Plus tard, la police française mettra la main sur les commanditaires du rapt des membres du grand banditisme français.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Alors, on prend cette première histoire de kidnapping, Dorothée Moisan. D'abord là, est-ce qu'on a dit que la rançon a été payée? Je me souviens plus du tout.
Alors là, en tout cas, on était sur des négociations avant de payer la rançon. On a commencé à 13 millions, on est assez vite redescendu à 2 millions. Ouais. Donc on était en tout cas négocié autour de 2 millions, puisque la police à ce moment-là, encore aujourd'hui, sait très bien que l'intérêt c'est de perdre le plus de temps possible à ne pas payer, puisque tant qu'on n'a pas payé, les ravisseurs ont un intérêt à garder l'otage en vie.
Ouais.
Et donc là, il fallait qu'on garde la petite fille, elle avait 5 ans. Alors ouais. Je ne sais pas si on se souvient ou pas, mais à l'époque, il y avait son visage dans les journaux avec ses deux grandes couettes, ses grands yeux noirs. C'est vrai que ça avait marqué les esprits à l'époque, et il s'agissait d'un couple qui habitait en France. Lui était sinon habité à Londres, on avait l'Espagne, donc c'était vraiment un kidnapping international. Mmh. Et donc, on n'avait pas payé la rançon puisque c'est une opération de police, un renseignement qui avait été obtenu par la police qui a permis d'arriver au ravisseur.
Alors justement, à ce propos, j'ai un document RTL, on a sorti des archives, 11 jours évidemment d'angoisse hein, pour la famille, et puis la petite Mélodie, comme vous venez de le dire, est libérée. Elle a été enlevée le 9 novembre, elle est libérée le 20 novembre par la police espagnole, et ce jour-là, Michel Cohen-Solal raconte sur RTL les circonstances de cette libération.
Une vingtaine de professionnels de la sécurité armés et masqués ont investi en moins de 10 minutes la maison. Très vite, une fusillade a éclaté. Les ravisseurs, qui étaient, dit-on, au nombre de 5, ont été totalement surpris par l'opération. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Seul, un d'entre eux a tenté de fuir en se protégeant avec l'arme qu'il a utilisée. C'est lui, d'ailleurs, qui a été mortellement touché par les balles des policiers. Quant à Mélodie, et c'est important, elle s'était réfugiée, semble-t-il, au fond d'une pièce investie aussitôt par les unités espagnoles qui ont très vite emmené la petite séquestrée dans un premier temps au commissariat local d'Estepona et puis au domicile de ses parents à la Villa Mélodie où elle se trouve à l'heure qu'il est entouré et cajolé par Raymond Nakachian, son père, la princesse Kiméra et la quasi-totalité des employés de la famille. Après donc 12 jours d'un cauchemar horrible, la petite fille s'est réveillée ce matin au son des mitraillettes, autant dire donc qu'elle revient de loin car on n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se produire si l'opération a fait mal tourner. Enfin, d'après les explications fournies il y a à peine quelques instants par l'avocat de la famille, il semble que la rançon à aucun moment n'ait été versée.
Alors, Dorothée Moisan, il faut dire, et vous le dites dans le livre, vous évoquez cette histoire, les enquêteurs ont découvert quelque chose de terrible. Vraisemblablement, les ravisseurs avaient décidé de tuer l'enfant.
Alors, c'est ce qu'avait expliqué le père de la petite fille, donc Raymond Nakachian, lors d'une conférence de presse. Il avait déclaré qu'une cache avait été creusée sous la villa dans laquelle était gardée
Mélodie.
Mélodie. Ouais. Et donc, lui en avait déduit, en tout cas, qu'il comptait bien la tuer. Après, une fois l'argent versé. Et c'est vrai que très souvent, les ravisseurs ont intérêt, si l'otage les a reconnus et peut les identifier, à éliminer l'otage.
Alors, comment la police, en deux mots, comment ils sont arrivés aux ravisseurs
Alors, moi, il y a une anecdote qu'on m'a racontée tout de suite sur cette histoire, et il n'y a pas une personne, mais plusieurs personnes m'ont raconté que c'était un porteur. Alors, c'est vraiment une histoire un petit peu alambiquée, mais un jogger qui joguait, donc qui faisait son footing en Espagne, aurait perdu son portefeuille sur la Costa del Sol. Une passante aurait récupéré le portefeuille, mais en courant après lui, ne l'aurait pas rattrapé.
Donc elle est allée à la police.
Et serait allée à la police pour déposer le portefeuille. Et la police aurait découvert dans ce portefeuille le plan de la maison où était gardée la petite Mélodie, ainsi que un ensemble d'éléments permettant d'identifier les ravisseurs.
Et le nom du gars qui avait perdu son portefeuille.
Exactement.
Bien sûr, ouais.
Exactement. Et sauf alors quelqu'un qui était proche de l'enquête à l'époque a souri quand je lui ai raconté cette histoire en me disant mais vous y avez vraiment cru vous à cette histoire ?
C'est un peu cousu de fil.
C'est quand même gros ça. Et donc voilà. Donc il semblerait que ce soit plutôt un indice qui ait permis à la police espagnole de remonter jusqu'à cette maison.
Voilà, mais du côté les policiers français ont travaillé aussi.
Voilà, c'est ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que cette affaire est assez exceptionnelle puisqu'elle a rassemblé tous les voyous, tout ce que la France faisait de mieux en voyous à cette époque. Dans le grand banditisme, il y avait des Marseillais de la French Connection, des voyous de la banlieue sud, des Lyonnais, on avait un Nantais aussi, donc on avait beaucoup de voyous qui tous ensemble se sont dit « faut qu'on se fasse de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire ?» On va aller enlever une petite fille en Espagne et s'organiser pour ensuite récupérer l'argent. Mais ce qui est très nouveau, c'est que pour la première fois, le but final n'était pas de récupérer l'argent de la rançon uniquement et d'aller se la couler douce aux Antilles ou autre. L'idée était de récupérer l'argent. Un bateau devait attendre cette rançon en Méditerranée pour ensuite repartir et financer un trafic de drogue. Mmh. Donc l'argent de la rançon n'était que finalement la première mise pour faire fructifier cet argent.
Voilà, ce qui répond à toutes les questions qu'on se pose aussi sur les mobiles qui peuvent évidemment agiter les ravisseurs. Alors on reviendra tout à l'heure sur des enlèvements qu'on peut appeler des enlèvements crapuleux, avec peut-être l'enlèvement le plus célèbre en France, c'est celui du baron en pain, bien sûr. Mais il y a des choses à dire sur les coulisses des tractations. Et dans un petit instant, après une pause, on va parler de prise d'otage, j'allais dire politique, les otages d'Arlit au Niger, parce que vous abordez très longuement cette affaire dans votre livre. A tout de suite.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Enquête sur le business des otages, c'est le sous-titre du livre Rançon. Tout simplement, Rançon au pluriel, livre de mon invité Dorothée Moisan, paru donc il y a quelques mois chez Fayard, et c'est une enquête, j'allais dire, tous azimuts, Dorothée Moisan, parce que vous avez voulu rencontrer un maximum de ceux et de celles qui peuvent, à un titre ou à un autre, à un moment, jouer un rôle dans les négociations ou dans le paiement des rançons. Vous l'avez dit, vous n'avez pas rencontré d'anciens otages parce que simplement, ils sont pas au courant en général ou très longtemps après, et évidemment vous décortiquez les affaires pour nous emmener dans les coulisses de ces tractations. Alors, on va prendre un exemple, cette fois-ci, qui est un exemple d'enlèvement politique, et il s'agit de ce qu'on a appelé les otages d'Arlit au Niger. C'est le 16 septembre 2010 qu'on apprend que 7 personnes dont 5 Français ont été enlevés au Niger. Ce sont des employés du groupe Areva et aussi du groupe Satom, qui est fait partie du groupe Vinci. Voilà, une filiale de Vinci. L'enlèvement à ce moment-là n'est pas encore revendiqué. Et sur RTL, Isabelle Date donne dans RTL Midi les premiers éléments d'information qu'elle a pu recueillir.
En l'absence de revendication, on ne peut émettre que des hypothèses. La première, les rebelles Touareg du mouvement des Nigériens pour la justice en conflit avec le pouvoir. En 2008 déjà, ils avaient enlevé quelques jours des employés d'Areva pour exiger leur implication dans la gestion des ressources, en clair, voir la couleur de l'argent tiré de la présence massive d'uranium sur leur territoire. Deuxième hypothèse, l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'enlèvement de la nuit dernière a eu lieu dans la même région que celui de Michel Germano, exécuté le 25 juillet dernier. Vous vous souvenez que la veille de sa mort, une lourde opération militaire à laquelle avaient participé des membres des forces spéciales françaises avait fait au moins 6 morts parmi les terroristes. L'ACMI avait juré de se venger. Et puis, il ne faut pas exclure une troisième hypothèse, une opération menée par les Touaregs en liaison avec l'ACMI. Ce qui paraît acquis, c'est que ces 7 salariés des entreprises françaises Areva et Satom, qui est une filiale du groupe Vinci, ont été enlevés à l'aube dans leur logement pourtant sécurisé à l'extérieur de la mine d'uranium d'Arlit dans le nord du pays. L'attaque, selon Areva, a été violente. Parmi ces 7 salariés, il y a 5 Français, dont un couple, un malgache et un togolais.
Voilà, ça c'était pour se remettre les choses en tête, Dorothée Moisan. Alors, il faut dire que des revendications, il va y en avoir, mais j'allais dire à deux étages, hein, c'est-à-dire le mouvement des Nigériens pour la justice, c'est le MNJ, dans un premier temps.
En 2008, mais à cette époque-là, c'est vraiment ACMI
ACMI, parce que ensuite c'est ACMI qui va prendre le relais de toute façon en 2009 pour. Mais vous connaissez l'histoire mieux que moi, donc.
De 2010, puisqu'ils étaient en 2010 quand ils ont été enlevés. Oui. Les précédentes étaient avec le MNJ. Donc on a eu un doute à ce moment-là. Est-ce que ce nouvel enlèvement va encore se régler rapidement en quelques jours, de manière finalement assez sympathique, sans qu'il y ait de violence ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est autre chose? Là, c'est véritablement ACMI, Abou Zeid était peut-être pas présent, mais en tout cas était pas loin le jour de l'enlèvement. Mm-hmm. On a vraiment ACMI qui est présent, qui revendique l'enlèvement.
Ouais. Donc ça, on sait donc, on a un interlocuteur. On a une demande de rançon, elle est fixée à
alors,
ce moment-là?
Au début, on n'a pas de demande de rançon, en tout cas officielle, il n'y a pas de déclaration dans les médias. ACMI reste très, très discret. Ouais. Donc tout ce qui est négociation, c'est fait à l'abri des regards. Mm-hmm. Il n'y a pas eu de déclaration à ce moment-là. Plusieurs personnes, dès le début, ont été informées de cette prise d'otage. Je parle dans mon livre de 2 circuits parallèles de négociations qui se mettent en place. L'un lié à Air France, qui a des contacts en Afrique. L'autre lié à Mohamed Akoté, qui est un Nigérien, un Touareg nigérien, ancien ministre de l'Environnement, qui est aussi un Touareg qui a des contacts sur place. Mmh. Donc ces 2 filières, finalement, de négociations se mettent en place. Pendant quelques semaines. Mmh. Et puis...
Alors, il se passe 4 mois, hein, à peu près, et au bout de 4 mois, très exactement le 24 février 2011, on apprend que 3 des otages ont été libérés. Alors, il y a la Française, Françoise Laribe, qui avait été enlevée avec son mari. Il y a un otage togolais, Alex Kodjo, et il y a un malgache, Jean-Claude Rakoto Rilalao, qui avait été enlevé également. Comment on explique le fait que 3 otages seulement
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, pendant quelques semaines, on a ces 2 canaux de négociation qui ont fonctionné. Mmh. Et soudainement, au bout de quelques semaines, un autre négociateur, Jean-Marc Gadoulet, qui est un Français, un ancien de la DGSE, est arrivé, a repris la main finalement, un petit peu mis de côté, plus ou moins violemment et plus ou moins de manière plus ou moins unilatérale, en tout cas d'après les 2 autres canaux, a repris la main. Il était chaudement recommandé par Idriss Déby au président malien et au président du Niger à ce moment-là. Oui. Et avec sa réputation, il a finalement été rencontré à Abou Zeid sur le terrain. Donc cet homme a un certain courage qu'on ne peut bien sûr pas lui contester. Mais des choses qui, moi, m'ont été dites par des négociateurs sur place, et que Abou Zeid était prêt à lâcher ses otages. Je parle des 2 otages africains, puisque au niveau marketing pour ACMI, finalement, avoir des otages africains, c'est pas très intéressant. Ouais. Autant dire financièrement non plus. Mmh. Et les djihadistes finalement d'ACMI n'ont pas beaucoup d'intérêt à avoir une femme avec eux dans le désert, c'est compliqué à gérer. D'accord. Donc du coup la femme et les 2 Africains avaient moins de valeur pour eux, ils voulaient s'en débarrasser.
Et là, on a payé pour avoir cette libération à votre connaissance?
Abou Zeid était à ma connaissance prêt à les lâcher pour rien, gratuitement. Il se trouve que Jean-Marc Gadoulet est arrivé dans la négociation, il a été négocié avec Abou Zeid, et il se trouve que ça s'est fini par une rançon qui a été payée de 12,5 millions d'euros à Abu Zayd.
D'accord. Donc, et il restait 4 autres otages français.
Donc on était à 4 millions d'euros par otage, qui à l'époque était la plus grosse somme qui avait été payée pour un otage dans le désert du Sahara. Il en restait 4, d'où la difficulté ensuite de négocier. Quand on a un tarif si important, le président malien ATT était catastrophé de voir une telle somme qui était payée. Il a fallu 2 ans et demi pour libérer les 4 autres otages, pour arriver à un prix qui convenait à tout le monde.
Ouais, qui ont été libérés en octobre 2013. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire ? Parce que vous dites dans votre livre, il faut se résoudre. Il y a une bourse internationale des otages. Là, vous venez de citer un prix, 4 millions par otage. Comment s'établit ce prix ? Qui le fixe ?
Alors, ça va dépendre de la zone dans laquelle est enlevé l'otage. Ça va dépendre de la nationalité. Ça va dépendre des ravisseurs. Donc, on sait que, enfin, ça dépend des périodes aussi. En Irak, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un otage, de récupérer un otage à moins 5 millions de dollars, puisque des prix ont été payés et les ravisseurs, entre eux, le téléphone arabe, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, fonctionne très bien et ils savent entre eux combien a été payé pour tel ou tel otage. Donc, on ne va pas demander moins. On va espérer, bien sûr, avoir au moins la même somme. En Somalie, les pirates de Somalie négociaient. Souvent, on était moins sur le prix d'un otage, mais sur le prix d'un bateau, avec plusieurs millions d'euros par bateau. En Colombie, le prix est souvent $1 million. Maintenant, il faut savoir qu'en Haïti, on lâchera facilement un otage pour $5 000, même pour $500. Oui. Par rapport au coût de la vie, ça peut permettre d'acheter beaucoup, et puis on s'enlève beaucoup entre Haïtiens, là, systématiquement, des étrangers. Oui. 90% des enlèvements concernent des locaux. On a l'impression, en parlant aujourd'hui, que ce sont les étrangers qui sont enlevés dans les pays où ils vont, mais la plupart du temps, ce sont des locaux qui s'enlèvent entre eux.
On peut en parler aux Mexicains, hein, notamment. Alors, on va faire une pause et on va parler, parce qu'ils existent, des otages oubliés. Et on va vous raconter l'histoire d'un couple français qui avait cru pouvoir passer le reste de leur vie dans un beau rêve, hein, l'achat d'une propriété terrienne au Venezuela. Ça s'est très, très mal passé.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Le business des otages, il semble également, d'après l'enquête de Dorothée Moisan, qui est mon invité cet après-midi, qui est vraiment deux poids deux mesures parfois, qui est, comme vous le disiez d'ailleurs, des nationalités qui valent moins pour les ravisseurs. Même les Français sont assez prisés, hein, si j'ai bien compris en lisant votre livre.
Alors ils vont peut-être le devenir un peu moins, parce qu'il y a véritablement une volonté de changer la doctrine et le gouvernement veut vraiment ne plus payer et laisser payer les autres, peut-être des entreprises ou des pays tiers qui viendront en avant.
Oui. Bon,
mais il faudra voir les fruits de cette politique dans quelques années.
Voilà, mais quand l'otage n'a pas de valeur marchande ou quand... je ne sais pas comment vous pourriez qualifier l'histoire de Christophe Beck et de sa femme. Vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé à ces gens-là?
Donc ils sont effectivement allés s'installer en Amérique latine parce qu'ils avaient trouvé une belle ferme après leur retraite pour s'installer, voulant profiter de leur retraite comme vous
ils
le disiez.
Ils vendent tout ce qu'ils ont, et puis parce qu'ils ont vu une annonce.
Ils ont vu une petite annonce dans un journal local, effectivement. Ils partent au Venezuela, ils font une première reconnaissance, ça leur plaît beaucoup. Il y a quelques Français déjà installés là-bas, et donc ils font ce voyage pour aller dans cette ferme vénézuélienne, s'installer, recevoir leurs enfants à l'occasion, etc. Et puis finalement, très vite, il y a pas mal d'intimidations, et puis c'est en décembre 2005, un matin, on vient enlever Christophe Beck. On vient le traîner en dehors de chez lui.
Alors, pardonnez-moi, c'est l'Armée de Libération Nationale.
Alors,
le LN.
Pas vraiment, justement. À ce moment-là, c'est pas le LN qui l'enlève, parce que dans le marché des otages dont on parle, il y a des revendeurs. On revend des otages.
D'accord.
Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ce n'est pas eux.
Là, c'est
on
des
avait
voyous,
les FARC ou le LN qui ont donc les plus connus, finalement, les têtes d'affiche de l'enlèvement, très organisées. Mais on a des voyous, des criminels qui se disent nous, on va se faire de l'argent avec ce Français.
D'accord.
Cet étranger qui a acheté une ferme, il doit bien avoir de l'argent. Donc, on demande une somme finalement raisonnable par rapport à ce qu'ils pouvaient se monnayer à l'époque, 25 000 $. Mais sauf qu'on tarde à payer. Et là, on tarde, attend 15 jours.
On
la
tarde,
famille.
C'est-à-dire, la famille, elle prévient les autorités françaises ou...
Alors, la famille, là, je me souviens plus si elle les. Je crois pas tout de suite, elle les avertisse. Mais de toute façon, pourquoi la France reconnaisse des otages? Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un otage français dans le monde. Il y a un otage français, otage d'ACMI. Il y a sûrement plus d'un otage français aujourd'hui dans le monde.
Dans le monde, d'accord.
C'est le chiffre officiel et la France ne reconnaît, entre guillemets, l'État français que les otages des terroristes. Quand on est otage crapuleux, finalement,
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose et la France ne les décompte pas de la même manière.
Donc la famille trouve pas les 25 000 dollars.
C'est pas qu'elle ne les trouve pas, mais à ce moment-là, elle essaie de négocier, de voir ce qui va être possible. Elle voit comment rassembler l'argent. Puis elle sait aussi qu'il faut pas payer, faut faire attention, négocier. Si on paye trop vite, et ben la semaine d'après, on va venir enlever la mère ou le fils ou quelqu'un d'autre et ça va repartir. Donc il se trouve qu'en tout cas, au goût des criminels, ce n'est pas assez rapide. Donc eux s'en lavent les mains, revendent l'otage, 500 000 dollars, c'est quand même beaucoup plus intéressant, à l'ELN colombien qui est de l'autre côté de la frontière, qui n'est pas loin.
Qui va demander, commençons, 4 fois plus.
Et donc, du coup, on va demander 4 fois plus, ou 2 millions de dollars. Et donc, du coup, l'otage n'est plus au Venezuela, est en Colombie, auprès d'une organisation extrêmement rodée sur les enlèvements. Parce que c'est facile d'enlever quelqu'un, finalement. Ce qui est dur, c'est de le séquestrer longtemps, le garder au secret, de s'en occuper, toute la logistique qui est derrière. Donc, l'ELN, finalement, a cet otage, l'a gardé pendant un an. Et donc sa famille s'est démenée pour trouver l'argent finalement pour payer cette rançon et pour le libérer un an plus tard.
Voilà, mais dès la libération, et on va entendre un document RTL à ce propos qui date du jour de la libération, où on apprend la libération du 26 décembre 2006. C'est pour ça qu'on parle d'otages oubliés à propos de Christophe Beck. À sa libération, qui date du 24 décembre, le son qu'on va entendre c'est le 26 décembre, 2 jours après. Et l'otage et sa famille dénoncent le manque de soutien, c'est vraiment un euphémisme de la part de la France dans cette affaire. On va écouter les explications que donnait sur l'antenne d'RTL Patrick Hisson.
L'ex-otage et sa famille ont choisi hier de sortir de leur réserve parce qu'ils n'ont pas vraiment apprécié la réaction du Quai d'Orsay après la libération. Le ministère des Affaires étrangères a assuré avoir assisté la famille durant toute la captivité. Faux, répond Christophe Beck. L'État français n'a pas versé un seul centime pour payer ma rançon, dit-il. Il a même refusé un prêt de 10 000 euros qu'avait sollicité mon épouse qui tentait de réunir les fonds pour organiser ma libération. L'ex-otage, très fatigué après une détention particulièrement difficile, a pour l'instant décidé de ne pas en dire beaucoup plus, mais il a promis de s'expliquer dans quelques jours et lorsque je raconterai les détails de mon histoire, cela aura, menace-t-il, des incidences politiques au Venezuela, en Colombie et en France. Selon l'un de ses enfants, Christophe Beck a été détenu durant plus d'un an par des guérilleros de l'ELM, une armée de libération d'inspiration guévariste, et c'est donc contre le paiement d'une rançon dont le montant n'a pas été révélé qu'il a été libéré dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, au Venezuela, tout près de la frontière colombienne.
Pour que les choses soient bien claires, Dorothée Moisan, la France a payé ou pas là, alors ?
Alors, la France, non, des Français, oui, puisque la famille de Christophe Beck a payé pour donc s'est saignée, a vendu tout ce qu'elle avait pour pouvoir payer cette rançon. Et c'est vrai qu'au final, il leur manquait 10 000 euros. Et ils ont fait une demande au Quai d'Orsay, on leur a dit, écoutez, non, on ne paye pas de rançon.
Ils ont fait une demande à l'ambassade qui a appelé le Quai d'Orsay, qui lui a dit, il n'en est pas question.
Il n'en est pas question.
Parce qu'apparemment, j'ai entendu d'autres sons, apparemment, les gens de l'ambassade de France sur place.
Tout à fait. Étaient des gens qui étaient, eux, les soutenaient et leur disaient que ça devrait être possible. Mais c'était d'autant plus amer à l'époque pour la famille Beck que c'était une époque où Ingrid Betancourt était encore détenue en Colombie et où beaucoup de bruit a été fait autour d'Ingrid Betancourt. Une rançon a été versée en 2003 par erreur. En l'occurrence, quelqu'un a versé la rançon.
Oui,
c'est pour ça que c'est très difficile quand on dit qu'il ne faut pas trop ébruiter, puisque beaucoup de gens cherchent autour à se faire de l'argent. Et une rançon a été remise à un mauvais, un guérillero, mais pas le bon visiblement. Qui n'a jamais rendu l'argent. Et ensuite, on a aussi eu cette opération dont on avait parlé un petit peu à Manaus, où Villepin avait été en avion secrètement pour essayer de la libérer. Et d'après ce qu'on m'a raconté, dans l'avion, il y avait aussi des armes et de l'argent. Finalement, l'opération avait avorté. Et de voir autant d'argent et d'énergie dépensée pour libérer Ingrid Betancourt, alors que ce ressortissant français, lui, estimait avoir au sens droit, c'est vrai que c'est très, très difficile à
vivre. C'est vraiment difficile, voilà. Alors, je voudrais, avant la pause, Avant la pause, je voudrais qu'on entende un autre document. C'est une autre histoire, on va pas la raconter en détail, mais elle est très connue. Hein. C'est la prise du Ponant, du bateau de croisière à voile, le Ponant, le 4 avril 2008, au large de la Somalie. Ce sont des pirates qui prennent les 30 membres d'équipage en otage. Et puis, donc là, on est le 4 avril. Et puis, le 11 avril, on apprend qu'il y a eu une opération de force, donc, organisée par la France, et les otages du Ponant sont libérés. À ce moment-là, la question est posée à l'Élysée. Alors, qui a payé? Combien ça a coûté à la France? L'Élysée affirme qu'aucun argent public n'a été transmis aux pirates, mais il y a bien une rançon qui a été versée, pour des raisons que explique sur l'antenne d'RTL Pierre Julien, qui est notre spécialiste à la fois aéronautique et pour tout ce qui concerne les armées dans le monde. Et il y a bien eu quand même une opération avec des billets. Bon, d'où venaient ces billets? Écoutons déjà la version de Pierre Julien.
Une rançon a bel et bien été versée. Les pirates auraient touché, selon les informations de RTL, de l'ordre de 3 millions d'euros. En gros, l'assurance souscrite par l'armateur du Ponant. C'est d'ailleurs lui qui a mené les négociations après avoir été contacté par radio par les pirates. Dès que le dialogue a été entamé, l'armateur a pu très vite compter sur les services des spécialistes français des prises d'otages, en l'occurrence les hommes du GIGN. C'est un scénario assez convaincant, rassurant, qui a été monté, mais tout était prêt à la moindre menace pour éliminer les pirates. L'équipage du Ponant a finalement été relâché sans violence. C'est alors que l'autre phase de l'opération a été lancée. Une fois les otages mis en sécurité, des commandos marines ont embarqué dans des hélicoptères depuis les navires de guerre français, aidés notamment par les indications d'un avion Atlantique 2 à très grand rayon d'action. Ils ont repéré plusieurs véhicules qui quittaient un campement à terre, un site identifié comme le repère des pirates. Un des pick-up a été touché de plein fouet par un tireur d'élite. D'autres machines armées de missiles étaient prêtes, elles également, à ouvrir le feu. Mais face à la puissance des forces spéciales françaises, les autorités somaliennes parlent d'ailleurs de 3 morts dans les rangs des pirates. Les autres preneurs d'otages ont préféré se rendre ou fuir. 6 d'entre eux ont été capturés et sont aujourd'hui à bord de la Jeanne d'Arc sous surveillance. C'est au cours de cette action que plusieurs sacs contenant des billets de la rançon ont été récupérés par les bérets verts. La preuve donc d'un versement.
Alors, la preuve d'un versement, d'un mot?
Bah déjà, on dit que 180 000 euros, je ne sais plus si c'est des euros ou des dollars, avaient été récupérés, mais ouais. Donc 90% ne l'a jamais été.
Ouais. Mais on a dit à l'époque, Dorothée Moisan, que de toute façon, ce n'était pas grave, parce que c'est des faux billets que les services secrets français avaient fournis pour payer la rançon. Alors, des faux dollars.
Ce qui se trouve, en tout cas, c'est que c'est bien la CMA-CGM, c'est l'armateur, en tout cas, qui a versé la rançon, qui effectivement est arrivé là-bas. Il se trouve qu'en tout cas, ce qui se chuchotait chez les pirates, c'était on ne fait plus confiance aux Français, parce que il y avait des faux billets, et donc depuis, en tout cas depuis cette affaire, ils se sont équipés, parce que les pirates du coup ont de l'argent, se sont équipés de détecteurs de faux billets depuis cette histoire. Alors je ne sais pas s'ils étaient vrais ou faux, en tout cas depuis les pirates ne se sont pas laissés avoir.
Très bien, alors on va faire une pause, ça va être la dernière dans l'émission. On va continuer à vous parler de ces histoires de prise d'otage. On va vous parler d'une prise d'otage qui n'a jamais eu lieu. Ça fait drôlement plaisir au papa. Il s'appelait Serge Gainsbourg. Et puis, on va vous parler aussi de maîtres chanteurs, on peut dire, hein, qui prennent en quelque sorte en otage une région. Et là, en l'occurrence, c'est la région de Bourgogne, avec des vins mondialement connus.
L'heure du crime sur RTL.
Alors on va se détendre 2 minutes, nous sommes toujours avec Dorothée Moisan, l'auteur de ce livre dont je vous recommande vivement la lecture, paru chez Fayard sous le titre Rançon, donc enquête sur le business des otages, et vous parlez dans ce livre d'une tentative d'enlèvement qui n'a jamais eu lieu, et vous avez raconté cette histoire dans un chapitre que vous consacrez aux pieds nickelés.
Les pieds nickelés du rapt.
Du rapt. Alors, dites-nous qui étaient ceux qui voulaient enlever la fille, Charlotte donc, hein, la fille de Serge Gainsbourg.
Dans les années 70 et 80, les enlèvements d'enfants étaient légion, notamment dans les années 70.
Là, on est en mars 87.
Là, on est vraiment à la fin des enlèvements, puisque la France, en tout cas sur son sol, a décidé de ne pas payer. Ouais. Et donc, depuis les années 80 en France, on n'a que très très peu d'enlèvements, d'entrepreneurs, d'enfants, ça n'existe plus vraiment.
Ouais.
Et donc, comme quoi la preuve, ne pas payer... paye, en tout cas en matière d'enlèvement et d'arrêt des enlèvements. Et donc cette affaire donc en 87, on a 3 jeunes, et pas des moindres, parce qu'on a Édouard de Faucigny-Lucinge, fils de prince.
Fils de bonne famille.
Exactement. Du
blouson doré.
Du TPG, du trésorier payeur général du Lot. Ouais. L'une des familles les plus prestigieuses de France. Il est à Sciences Po à ce moment-là, il a 22-23 ans. Et puis il a des copains, étudiants aussi. Et ils se disent, bah, peut-être pour faire monter l'adrénaline, peut-être aussi.
On va braquer des banques, on va.
Et donc, on se dit, mais non, on va pas braquer des banques, on va enlever quelqu'un, et on va enlever quelqu'un de connu. Et pourquoi pas Charlotte Gainsbourg. Voilà. Charlotte, elle a 15 ans à cette époque. Et ils ont tout préparé. Hein. Il nous faut de l'argent. Donc on braque une bijouterie pour récupérer un peu d'argent.
Alors c'est ça, voilà.
Il faut une arme. Mmh. On braque une armurerie pour braquer une arme.
D'accord.
Mais il manque quelque chose. Parce que l'idée, c'est quand même d'aller enlever Charlotte en policier auprès de sa mère, donc Jane Birkin, ou à l'école.
Ah, ils ont fait un scénario.
Ah oui, le scénario est préparé. Donc il faut aller plutôt en uniforme de policier. Alors les farces et attrapes, c'est pas suffisamment convaincant. On va donc tuer un policier ou le blesser pour récupérer son uniforme.
Ah, d'accord.
Et à l'époque, place du Panthéon, il y a toujours des policiers en faction en bas chez Chantipéry, pardon, maire du 5e arrondissement.
Oui, bien sûr, oui.
Et dans la nuit, vers minuit, 2h du matin, ils vont donc tous les trois, plus la petite copine avec leur voiture, tirer sur un des policiers pour récupérer son uniforme. Pas de chance, ce jour-là, une patrouille de police passe à côté et les prend en chasse. Et donc, il y a un accident qui se passe, etc. Ils sont arrêtés dans le 13e arrondissement, non loin. Oui. Édouard de Faucigny-Lucinge, ses deux amis et la petite copine.
Et ils avouent, évidemment.
Et ils avouent, mais alors ce qu'on apprend à ce moment-là, c'était vraiment pas du flan. C'est que il y avait dans la maison de la grand-mère de l'un d'entre eux, en Bretagne, près de Lannion, une grande longère qui était là-bas. On a retrouvé dans la cave de cette longère un sac, un grand sac kaki, avec des chaînes, avec des cadenas. Et avec de la nourriture pour une semaine. Voilà. Il était prévu que Charlotte soit emmenée là-bas pendant sa captivité.
Alors Charlotte Gainsbourg avait 16 ans à l'époque. La rançon qu'il comptait demander, c'était 4 millions de francs. Donc une somme très importante en 1987. Et évidemment, Serge Gainsbourg a été mis au compte. De toute façon, il passait souvent dans des commissariats ou même au 36 qui est des Orfèvres. Mais enfin, il risquait pas d'être violé là. Donc il y avait pas de problème. Et pour boire des coups, en fin de semaine. Et là, on lui annonce donc ça, et il décide de faire une fête énorme. Et le 10 mars, il est interviewé sur RTL. Et écoutez, ça, alors, prêtez l'oreille, c'est du Gainsbourg, hein, quand même, dans le texte. Donc écoutez bien, parce qu'il parle pas très fort. Il raconte, voilà ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, quand il a appris qu'on voulait enlever sa fille.
Eh bien, ma première réaction au petit gars, c'est que je suis un garçon qui a déjà eu une crise cardiaque et puis évêque de la 5e brigade criminelle. On m'a mis au parfum et on m'a dit qu'il n'y avait plus de danger. Voilà. Sinon, je pense que j'y passais moi. C'est moi qui y passais. Mais les 4 lascars, je les ai vus. C'est des mecs très classe, hein. C'est d'autant plus dégueulasse. Et moi, je vais prendre un mec pour un parti civil et je vais leur mettre un max sans vaseline. Ok?
Ok, voilà, donc on ne pouvait pas ne pas passer cette réaction. Mais enfin, maintenant, il a été évidemment très choqué hein, de cette affaire et Charlotte Gainsbourg aussi. Alors, il nous reste très peu de temps. Je ne vais pas passer le document que j'avais prévu de passer, mais je voudrais qu'on parle de l'histoire parce qu'il y a comme mobile, le mobile politique, le mobile évidemment, tout simplement des braqueurs, etc. Et il y a des gens qui prennent carrément, par exemple, un viticulteur, et pas des moindres, c'est Romané Conti, hein, quand même, dans le collimateur, et qui contacte le responsable donc de ces vignes en disant, nous avons empoisonné des pieds de vigne, et si vous ne payez pas, on empoisonne toute votre vigne.
Effectivement, et il y a eu cette menace. C'était un petit viticulteur champenois qui avait déjà été condamné pour des braquages, pour une prise d'otage. D'ailleurs, il avait fait à deux reprises de la prison. Mais dès qu'il est ressorti, il a été effectivement empoisonné de cèpes de vigne de la Romané Conti. Ouais.
Donc sa menace. Les enquêteurs ont vérifié.
Exactement, on a vérifié et c'était bien le cas.
Ouais, d'accord.
Et donc, du coup, la Romané Conti, on avait quand même une vraie frayeur.
Ouais. Et il demandait 1 million d'euros, hein, je crois.
C'était une somme de ce type-là. Ouais. Et il est avec son fils. fils. Il avait réussi à convaincre son fils de le rejoindre. Ouais. Il avait même menacé un autre domaine non loin. Hein, donc il faisait ça sur plusieurs domaines. Ouais. Mais finalement, la police est intervenue. La remise de rançon devait avoir lieu dans un cimetière non loin. Mmh. Quelqu'un, un responsable du domaine, tremblant, est allé porter cette rançon en pleine nuit dans ce cimetière entre les pierres tombales. Ouais. Et finalement, la police, bien sûr, a sauté sur le rable de ce viticulteur qui, l'histoire se finit mal, en prison. Il a fini par se suicider dans sa cellule.
Et le Romanée Conti est toujours un des vins les plus cotés au monde. Merci beaucoup, Dorothée Moisan, de nous avoir apporté votre éclairage sur les dessous et les coulisses des prises d'otages. Je rappelle le titre de votre livre, Rançon, enquête sur le business des otages, aux éditions Fayard. Merci infiniment.
Merci à vous.
L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes.